vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Épisode numéro 78. Faire du neuf avec du vieux. Le pari d'Eva Roy. Chers amis, bonjour, mais qu'est-ce que l'on va faire avec ces vieux trucs-là? On va pas garder cela 150 ans au salon? Ce vieux truc de ta grand-mère? Ok, bon, bon, ok, oui, c'est chouette, mais enfin, tu transformes l'appart en musée. Et puis, le grenier est déjà archi-plein, et à la cave, on n'arrive même plus à entrer. Je sais, ça fait partie du patrimoine familial, et je devrais un jour l'offrir à l'un de mes petits-enfants. Mais je sais très bien que si je leur donne cela aujourd'hui, demain c'est sur le Bon Coin ou sur eBay, et ce serait quand même dommage. Alors, vous aussi, chers auditeurs de « Vous l'avez bien connu », l'émission qui explore le temps perdu et le jeu du hasard, et la tarte au fromage de la boulangerie de la rue Gaillère. Donc vous, chers auditeurs, vous avez plein de magnifiques objets qui vous encombrent et dont vous vous dites « Non, je ne peux pas m'en débarrasser ». Alors, comment faire du neuf avec du vieux? Eh bien, je vais poser la question à Eva Roy. Bonjour Eva Roy.
Bonjour Ambroise Perrin.
Vous êtes la responsable de la maison rurale de l'Outre-Forêt. Alors, c'est un musée à Kutzenhausen, c'est près de Soultz-sous-Forêt. Et en fait, c'est un ancien corps de ferme désaffecté et transformé en magnifique bric-à-brac, mirifique. Ça craque les vieilles planches. Alors, faire du neuf avec du vieux, est-ce que c'est possible? Alors, attendez. Avant de me répondre, apprenez qu'il s'agit aussi d'une définition de mots croisés du génial Georges Perec. Alors, dans notre émission, vous l'avez bien connu, on s'amuse beaucoup à citer Proust, hein, Le Temps Perdu, enfin, en toute modestie, mais c'est tellement génial qu'on ne peut pas s'empêcher d'y penser. Marivaux, Le Jeu du Hasard, Flaubert pour parler magnifiquement de rien. Voilà, c'est ce qu'on fait. Et Georges Perec, La Disparition. Mais le grand écrivain Georges Perec rédigeait aussi des mots croisés. Alors, c'était dans l'esprit de Loulipo, l'ouvroir de littérature potentielle. Vous connaissez Loulipo? Alors, Loulipo, cherchez sur Internet, vous verrez, c'est génial. Et donc, Georges Perec, un jour, a proposé cette définition en 11 lettres. Écoutez bien, chers auditeurs, 11 lettres. Faire du neuf avec du vieux. Vous avez trouvé?
Non.
Non, non. Alors, en 11 lettres, Eva Roy, eh bien, je donnerai la réponse à la fin de l'épisode. Vous allez aimer, vous allez voir. Donc, faire du neuf avec du vieux, cherchez. Donc, Eva Roy, si j'ai un magnifique vieux cadre avec une peinture de ma grand-mère en costume d'Alsacienne, je peux venir l'offrir à la maison rurale? Alors, soit par générosité ou alors simplement pour m'en débarrasser.
Bien, effectivement, tout dépend de ce qui est représenté sur ce vieux cadre. Parce qu'à la maison rurale, on a des propositions de dons toutes les semaines, pour parfois ne pas dire tous les jours. Il y a des dons qui effectivement sont bienvenus parce que c'est des choses qu'on n'a pas encore à disposition dans le parcours de visite du musée. Puis il y a des dons qui sont parfois plus personnels, comme le tableau de la grand-mère, où malheureusement, on ne va pas forcément trouver une place adaptée pour cet objet-là dans le parcours du musée. Et au final, il va passer du grenier du particulier au grenier des réserves du musée. Donc, ce n'est pas forcément toujours facile de réussir à traiter ce genre de proposition de don.
Alors, quels sont les critères pour sélectionner quelque chose? Est-ce que, à partir de quel âge un objet est-il vieux?
Ça, c'est une grande question, surtout quand on voit le retour du vintage déjà des années 2000 en ce moment. Finalement, on peut déjà considérer quelque chose qui a plus de 20 ans, plus de 10 ans est vieux. Nous, à la maison rurale, ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui va à peu près jusqu'au début des années 50 ans. Donc tous les objets qui vont dater de la période avant ou de cette période-là peuvent nous intéresser au musée. Il y a des choses qu'on a énormément dans nos collections. Là, je pense au typique pot de Betschdorf que tout le monde a chez soi. C'est vrai, des pots de Betschdorf, on en a tellement. On en a même exposé des dizaines les uns à côté des autres pour que les gens se rendent compte de la quantité qu'on a en stock. Ce n'est pas forcément le genre d'objet qu'on va encore accepter. À la rigueur, moi, ce que je dis aux visiteurs, c'est si votre pot date du XVIe siècle, là, il n'y a aucun souci, celui-là, on va vous le prendre. Mais si c'est le pot classique avec noté parfois Aran dessus ou ce genre de choses, ça, non, on va pas le prendre.
Ça ne vous intéresse pas. Mais alors, justement, les gens, ils ont ça chez eux depuis peut-être quand même 20, 30, 50 ans. Et puis, ils se disent, je ne vais pas le jeter. Les aléas de la vie ont fait que ce pot de Betschdorf n'a pas encore été cassé, mais peut-être c'est parce qu'ils déménagent. Ils passent d'un grand appartement à un petit appartement, donc ils ne savent plus quoi en faire. Alors, qu'est-ce qu'ils devraient en faire alors ? Il faut faire quoi avec ?
Alors, moi, personnellement, j'attache beaucoup d'importance à l'objet. Et c'est vrai que parfois, quand je vois des visiteurs qui sont attachés à ce pot de Betschdorf, qui finalement... n'a pas forcément un intérêt historique majeur, mais pour eux, c'est un intérêt familial, parce que c'était sur l'étagère de la grand-mère, c'était sur l'étagère de leur mère, de leur père. Ils ont envie qu'ils gardent une place, même si ça ne sera pas chez eux. Mais ça n'a pas forcément toujours sa place dans un musée. Alors, parfois, moi, j'ai envie de repartir avec chez moi, parce que je me dis, cet objet, il a une histoire. Et même si c'est l'histoire que quelqu'un d'autre lui a apportée, c'est ça qui est intéressant. Alors l'autre solution, ça serait qu'on puisse agrandir le musée avec des dizaines de maisons en plus, mais ça, c'est un peu plus compliqué.
Oui, et puis quels seraient les critères quand même de visite Il y a une chronologie quand même dans la présentation des objets, hein, c'est ça hein. Donc, quels sont les objets les plus vieux dans le musée? Vous avez des silex de...
Non, c'est non, pas effectivement, ça. Non. On n'a pas de silex. Le principe du musée, c'est de rentrer dans la maison d'une famille d'Alsace du Nord. On va dire que ça peut aller de la fin du 19e siècle aux années 50, avant l'arrivée de la mécanisation. Donc on a des objets parfois qui sont plus anciens, notamment des meubles. Là on sait, ils sont datés parce que les meubles de mariée polychromes, souvent,
ont la date du mariage. Et un râteau pour ramasser le foin?
Mais on en a énormément, des râteaux pour ramasser le foin. En fait, l'un de nos critères principaux, c'est est-ce qu'on a déjà cet objet en stock ou pas. Si on ne l'a pas, généralement on va l'accepter. Ou à la rigueur, on peut aussi se baser sur nos prochains projets d'exposition. Là, cet été, on va parler colportage. Si quelqu'un arrive avec une hotte de colporteur, même si on n'a pas la place de la montrer toute l'année, là, il n'y aura aucun souci parce qu'on sait qu'elle va être mise en valeur justement cet été.
Alors, les musées, on le sait, ont des réserves. Parfois, ils ne montrent que 10% de ce qu'ils possèdent. Vous avez de grandes réserves ?
Nous avons de grandes réserves, effectivement.
Et vous avez de la place ou comment vous faites ?
Mais justement, c'est pour ça que malheureusement, on ne peut pas tout accepter. C'est parce que la place, au bout d'un moment, elle se réduit de plus en plus. Et donc, on est obligé de faire des choix, surtout sur des grands objets. Quand on nous propose du matériel agricole ou ce genre de choses, on ne peut pas accepter, tout simplement.
Bon, alors, effectivement, un tracteur du début du siècle, bon, c'est rare, mais ça prend de la place.
C'est
mais...
ça.
Mais ça intéresse beaucoup les gens, ça, par exemple, la mécanique.
Oui, hein, mais il y a plein de choses qui les intéresseraient beaucoup. Et parfois, c'est dur de devoir refuser certaines choses parce qu'on aimerait pouvoir
encore les accepter. Parce que ça va partir à la ferraille à ce moment-là,
ouais.
C'est pas... Oui,
oui, dans ce
alors,
genre
donc,
de cas.
Mais alors, en même temps, les choses qui sont très émouvantes, ce sont les petites choses que j'appellerais les riens, les riens du tout.
Oui.
C'est quoi les riens ?
Les petits riens, moi, là, ça me fait penser à un don qu'on a reçu l'an dernier, où c'était des toutes petites poupées, mais vraiment plus petites que la taille d'une main, une petite tasse à café peut-être, des petites poupées d'Alsaciennes, où finalement, on s'était dit, ah, peut-être qu'on n'a pas tellement besoin dans les collections, parce que des poupées d'Alsaciennes, on en a énormément en stock, c'est quelque chose qui était tendance à un moment, qui se faisait beaucoup dans les familles. Et par la suite, en visitant un autre musée, j'ai appris que cette petite poupée exactement servait à décorer les sapins de Noël à la Libération. Donc c'était des décorations pour les sapins, pour les maisons. Et donc finalement, ce qu'on pensait être un petit rien avait une histoire beaucoup plus importante derrière.
Donc les riens racontent des histoires.
C'est ça.
Voilà. Alors, il n'y a plus rien, mais ce rien, je vous le donne. J'adore répéter cette phrase de Léo Ferré. Mais les riens, ce sont donc des choses banales, mais des choses banales qui sont vraiment banales. Je ne sais pas moi, un pot de café, ou alors ce que je pense, on avait tous à la maison, c'est la douille de la guerre de 14-18 qui était sculptée, souvent après la guerre, mais peu importe. J'imagine que ça aussi, vous en avez beaucoup.
On en a aussi, effectivement. Et ce qui est intéressant avec ces riens, c'est quand la personne qui nous les apporte nous raconte l'histoire qu'il y a derrière.
Voilà.
C'est ça, parce qu'il y a des objets qui, pour nous, sont totalement sans intérêt. Et en fait, la personne y attache une importance parce qu'il y a une histoire familiale, parce qu'il y a un lien. Et c'est ça, parfois, qui est intéressant. Surtout quand on a des visiteurs qui reviennent, qui ont le plaisir de voir que l'objet qu'ils nous ont donné est visible sur le parcours de visite.
Il est exposé.
Et là, ils nous racontent à nouveau l'histoire, ils le racontent aux autres visiteurs, et ça, c'est riche.
Alors, est-ce que la richesse, justement, du musée, ce ne serait pas un simple cahier, Claire Fontaine, avec une plume sergent-major? Non, mais même...
On a les plumes sergent-major, donc...
Et d'écrire, non, mais de raconter, parce que les gens, oui, ils vous racontent l'histoire de l'objet, hein, de, je ne sais pas, la petite théière que la grand-mère a reçue de son frère, et puis comme elle ne savait pas quoi en faire, elle l'a offert à la tante Marguerite, qui l'a offerte ensuite à la tante Ida. Ida l'a donnée à sa cousine Hélène, et Hélène, un jour, l'a redonnée à votre grand-mère. Donc, la théière, elle a fait le tour de la famille. Je vous raconte ça parce que c'est une histoire vraie, ça nous est arrivé. Et donc, bon, 15 ans plus tard, la théière revient. Elle a une histoire. C'est marrant de raconter cette histoire. Donc, est-ce que vous prenez note lorsque les visiteurs viennent vous raconter cela ?
Note en papier, pas forcément. On prend note dans nos têtes. Moi, c'est vrai que c'est des choses que je raconte parfois en visite guidée. Mais ça pourrait être une idée d'exposition.
Alors, vous allez écrire un livre ?
On pourrait, sur chaque objet.
Alors, vous avez une autre casquette, hein, que celle de responsable de la maison rurale. Vous êtes une doctorante, hein, donc vous êtes à la fac et tout. Vous êtes docteur en vieux objets, enfin docteur en patrimoine alsacien. Docteur en quoi, en fait ?
Je suis doctorante en histoire contemporaine.
Voilà, bon, c'est plus banal peut-être comme titre, mais voilà. Et donc, votre spécialité en tant que doctorante, c'est...
Alors, je travaille sur les dessins, les représentations graphiques qui ont été réalisées par les incorporés de force alsaciens et mosellans durant la Seconde Guerre mondiale. Donc, des dessins qu'ils ont pu faire soit sur le front, sur des lettres envoyées à leur famille, ou bien des dessins qui ont été réalisés après, au retour en France, en Alsace, en Moselle, pour raconter ce qu'ils ont vécu soit sur le front, soit dans les camps en Russie.
Donc, vous avez la pratique de l'écriture. Vous pourriez faire un livre de la maison rurale également, en racontant tous les gens qui sont venus raconter... l'histoire de la théière ou du pot de Betschdorf ou du râteau.
C'est vrai qu'en en discutant, je trouve que c'est une très bonne idée.
Ah ben, écoutez, si vous avez besoin d'un nègre, hein, voilà. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas un musée des malgré nous, enfin, ou de l'incorporation de forces? Alors, il y a le Struthof sur Meck, mais il y a d'autres... Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont été faites sur les malgré nous, sur les volontaires qui sont devenus malgré nous après parce que ça a mal tourné, et sur tous les Alsaciens qui sont partis. Je croyais qu'on disait qu'ils ne parlaient pas en revenant, les survivants.
Effectivement, souvent dans les familles, c'est ce qu'on entend, que le grand-père, l'arrière-grand-père ou le père ne racontait pas ce qu'il avait vécu. Pour une majorité, c'est peut-être le cas, mais il y en a quand même certains qui ont témoigné. Alors moi, les dessins qui m'intéressent justement pour ceux qui ont été réalisés après, c'est souvent des illustrations de témoignages écrits, où quelqu'un a voulu fixer par l'écrit ce qu'il a vécu, et puis soit lui, soit un autre, malgré nous, qu'il a connu, illustre ces témoignages-là.
Alors vous faites une thèse, un doctorat, donc c'est un travail scientifique extrêmement rigoureux, avec des normes, hein, celles de la fac, et parce que votre travail va servir de référence ensuite. Donc, il y a des profs au-dessus de vous, hein, qui contrôlent ce que vous faites, hein, votre directeur de thèse. Dans un musée, je reviens à la maison rurale, là, c'est à votre bon plaisir, pour utiliser ce joli mot de d'Ormesson, hein, je crois. Vous faites ça un peu... Alors, c'est pas scientifique, votre boulot à la maison rurale.
Ça dépend des structures, des tailles de musées également, je suppose. C'est vrai que nous, la maison rurale, même si on accueille beaucoup de visiteurs annuels, on reste une petite structure, on va dire, à notre échelle. Donc, c'est vrai que lorsqu'on organise des expositions, ce genre de travail, ça ne va pas forcément être avec la rigueur universitaire. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas pousser dans les détails pour pouvoir proposer les choses les plus complètes possibles.
Alors donc, il y a les expositions thématiques deux ou trois par an peut-être ou...
Alors oui, on a quatre expositions thématiques à peu près, et puis après des expositions d'art qui se rajoutent, et des expositions de broderie, point de croix, tricot.
Ah oui.
Oui.
La broderie.
La broderie. Alors, c'est notre grand rendez-vous annuel. C'est ce qui attire le plus de visiteurs par an. C'est le festival Pointe Croix et Broderie à la fin de l'automne.
Ah, c'est
la
formidable.
Fin d'octobre, pardon.
Ah, comme quoi, on ne se doute peut-être pas de...
Ah, et c'est des visiteurs d'Alsace, d'Allemagne, parfois d'Italie. On a eu un bus d'Italien l'an dernier, un bus de Belge également. Donc,
ah, c'est formidable.
On a notre petite réputation, oui.
Et alors, le reste est classé chronologiquement. Hein. J'avais déjà posé la question, mais les salles sont...
Alors,
arrangés comment...
chronologiquement, non. En fait, pour un peu expliquer le plan du musée, c'est deux maisons qui, par la suite, ont été habitées plus récemment par une seule famille. Donc, la plus petite des maisons sert un petit peu à présenter l'histoire du musée, mais également l'histoire des familles qui ont habité. On sait que la maison rurale a été habitée depuis au moins 1717. On connaît le nom de la personne qui y vivait, Félix Stambach. On sait que ses enfants sont partis vivre aux États-Unis. Alors pour l'anecdote, on a déjà des Américains qui sont venus visiter la maison rurale parce que c'était là dont venaient leurs ancêtres. Et on a souvent des Américains qui viennent en visite justement parce qu'ils ont des gens qui viennent de l'outre-forêt dans leur famille. Et donc après, on rentre dans la maison principale où là, ce n'est pas chronologique finalement le fonctionnement. C'est tout simplement une maison. On a la cuisine, on a la grosse stoupe, la grande pièce, on a la kleine stoupe pour la grand-mère, on a la chambre du jeune couple... On a un vieux grenier, enfin c'est vraiment une maison d'habitation.
Et vous parlez parfaitement l'alsacien, très apprécié.
Je le comprends et je prends des cours d'alsacien.
Formidable. Avec feu le professeur Madsen, vous avez sa méthode.
Non.
Très connu, non.
Non,
parce qu'il est un peu. Et alors, c'est Rémi Beauce, hein, je crois que c'est Rémi.
Alain,
hein,
son... Beauce.
Ouais. Alain. Rémi, c'était. Non, je le confonds, c'est un grand musicien qui habite à côté, qui doit être un cousin. Oui, Alain Beauce. Qui a lancé cette maison rurale. Il était instituteur, si je me souviens bien.
Et
c'était dans les années 70, 1972.
Alors, la maison a été habitée jusqu'à la fin des années 70. Alors là, la date exacte, je ne l'ai plus en tête, par Georges et Joséphine April. Lorsque le couple, tout simplement, est décédé, n'habitait plus la maison, il y avait effectivement ce projet qui, à la base, vient du cercle d'histoire de l'Outre-Forêt. Et donc, ils étaient à la recherche d'une maison dans le nord de l'Alsace qui pourrait servir. Il y a plusieurs villages qui ont été étudiés. Et c'est vrai que Kutzenhausen, la maison était bien placée parce que c'est au centre du village, à côté de l'église protestante. Il y a la possibilité de se garer, etc. Et donc, la maison rurale, l'association des Amis de la Maison Rurale est née en 88.
Ah oui.
88. Et puis, il y a eu 10 ans de travaux avant l'ouverture au public. Et donc, c'était également un projet à la base initié notamment par Jean-Laurent Vauneau.
Voilà.
Et Alain Beauce a été
qui est membre de la rédaction de la revue Outre-Forêt, historien local et de renommée internationale, hein, même jusqu'à Kiel en Allemagne, et Landau et Schweigen.
Qu'Alain Beauce a été une vraie cheville ouvrière du quotidien à la maison rurale.
Voilà.
On avait notre assemblée générale vendredi, on a encore beaucoup parlé de lui en souvenir.
Alors Alain Beauce était un collègue de mon papa, Roch Perrin, qui était prof à Wissembourg.
D'accord.
Et je sais que vous avez un vieux vélo.
Vous m'en aviez parlé, effectivement.
Je vous en ai parlé une fois. Alors, ça, bon, vous dévoilez l'histoire, mais quand même. Un jour, donc, Alain Beauce vient manger à la maison et voit le vieux vélo de mon papa, qui a une histoire, parce que c'est avec ce vélo qu'il allait de Rochesson dans les Vosges jusqu'à Wissembourg pour voir ma maman. Quand ils étaient fiancés, quand même, 150 km, fallait être amoureux, hein, autrement je ne serais pas là. Et Alain Beauce donc, lui a dit « Ah, oh, mais donc, ce vieux vélo, qu'est-ce que tu vas faire avec celui-là ? Il pesait 30 kilos, enfin, ce n'était plus un vélo qu'on utilisait. » Il dit « Je te le prends, je vais faire un musée. » Et donc, c'est comme ça que ce vélo familial, sans qui notre famille n'existerait pas, se retrouve au musée. Donc, parfois, les petits riens, le dérailleur marche encore.
Alors, on a un vélo qui est dans la cour toute l'année. Je ne sais pas si c'est celui-là.
Ah, si c'est celui-là qui est
peut-être.
En train de rouiller, peut-être pas. Voilà. Est-ce que vous avez une définition scientifique de la notion de art et tradition populaire ?
Alors, une définition scientifique, je ne sais pas. Une définition personnelle, oui.
Alors, allons-y pour la définition personnelle.
Donc, art et tradition populaire, c'est vrai que le terme, on le retrouve un petit peu partout. C'est un terme presque un peu parapluie parce qu'on peut mettre plein de choses dedans. Nous, à la Maison Rurale, tout ce qui est art et tradition populaire, ça peut autant englober le festival Pointe-Croix et broderie, parce que c'est des choses qu'on faisait finalement chez soi. La broderie, le Pointe-Croix, c'était quelque chose qui était maîtrisé par tout le monde. Alors, bien sûr, à différentes échelles, on ne faisait pas forcément toutes des travaux qui pouvaient être exposés par la suite.
Alors, quand vous dites Pointe-Croix, ce n'est pas .3 comme en informatique. C'est le point
de croix, oui.
Le point de croix.
C'est ça.
Oui, parce que j'avais cru comprendre point 3.
Ah non, donc, point de croix.
Le point de croix, avec
c'est
un
ça.
X.
Avec voilà. Un X à la fin, voilà. Exactement.
Je crois en toi, la broderie. Voilà, d'accord.
Voilà, c'est des choses qu'on faisait tous chez soi, mais des choses qui pouvaient devenir artistique. C'est un art du quotidien, c'est un art populaire.
C'est de la broderie. Hein,
c'est de la broderie, oui.
Parce que moi,
donc,
je connais le point mousse.
Ça, c'est du tricot.
J'ai fait du tricot parce que moi, je tricotais quand je prenais le train et c'était absolument formidable.
C'est vrai que je parle point de croix. Pour moi, c'est une évidence parce que j'en vois tout le temps. Mais le point de croix, donc, ce sont des petites croix qu'on fait une à une, brodées. Et donc, ça permet de faire des motifs très complets.
Donc, sur une trame comme ça, un petit peu rigide.
Oui, c'est ça, un peu quadrillé. Alors, il y a des quadrillages qui sont parfois très, très fins. Hein,
c'est de l'amidon qui fait que le tissu est...
C'est pas toujours. Il y en a certains qui sont amidonnés, mais c'est pas toujours le cas.
Non, voilà. Et donc, ça s'expose. Alors, on a au salon à Wissembourg, dans la maison de ma maman. Alors, c'est blanc avec des lettres rouges.
C'est un abécédaire.
Un abécédaire, 1884. Donc, c'est ma grand-mère qui l'avait fait. Alors, je suppose qu'elle l'a fait après, puisque c'est sa date de naissance. On mettait sa date de naissance, peut-être. Et donc, vous avez toutes les lettres. En plus, en gothique, et les chiffres en dessous.
C'est ça.
Et il paraît qu'il fallait 1 ou 2 ans pour faire ça.
Alors, le temps, je ne sais pas, mais l'abécédaire, c'était souvent un peu le premier exercice de style, on va dire, en broderie, en point de croix. Ça permettait aussi de tester un peu toutes les techniques de broderie possibles, parce que le point de croix, c'est de la broderie, c'est juste un point particulier que nous, on affectionne beaucoup à la Maison Rurale, ça, c'est sûr. Et donc, ça permettait, oui, de prendre un peu ses marques dans le milieu de la broderie, on va dire.
Oui, mais est-ce que ce n'était pas une façon pour... parce que je suppose qu'on commençait ça soit par une grand-mère ou une maman qui vous montrait comment ça fonctionnait, ou peut-être même à l'école, les bonnes sœurs qui disaient, voilà, vous allez faire ça. C'était une façon de dire, bon, vous, les filles, vous allez plus tard faire de la couture, de la cuisine, des enfants.
Des choses qu'il fallait apprendre parce qu'il fallait les maîtriser, effectivement.
Est-ce qu'il y a des garçons qui faisaient le point de croix?
Ça a dû se faire dans les familles. Après ça, je ne saurais pas en dire plus.
Oui, il n'y a pas de marque précise qui montre que ce sont des garçons qui... il y a bien des filles qui s'intéressaient aux tracteurs.
Oui, donc, c'est ça. Donc, ça a dû arriver.
Voilà. Est-ce que vous avez des collègues, entre guillemets, en Alsace? Est-ce qu'il y a d'autres maisons rurales que celle de Kutzenhausen? Il faut traverser la forêt de Haguenau pour y arriver, je dis ça. Et quand vous avez fini de traverser... La forêt de Haguenau, on se retrouve où? Au sud de la Finlande. Et donc là, vous avez Surbourg, puis Soultz-sous-Forêt, et
ça.
Vous allez un petit peu à gauche, et vous arrivez à Kutzenhausen. Est-ce qu'il y a d'autres maisons rurales? Alors, je sais que dans le Haut-Rhin, il y a un petit peu les écomusées.
Il y a l'écomusée, bien sûr.
Oui.
Celui-là, c'est celui auquel tous les visiteurs d'Alsace pensent en premier. Et c'est normal, parce que c'est vrai que c'est quand même un projet d'ampleur.
Oui, mais c'est dans le Haut-Rhin, quand
c'est
même.
Dans le Haut-Rhin. Ça fait loin de Kutzenhausen.
Non, et puis les Haut-Rhinois, dans le Bas-Rhin.
Non, il y a
qu'est-ce
d'autres,
qu'on en dit
Il y a d'autres initiatives. Il y a également une initiative qui existe à Reichstätt. Où là, si je ne me trompe pas, il y a également une maison de Kutzenhausen, justement, qui a été démontée, puis remontée là-bas pour ce projet-là.
Avec une spécificité à Reichstätt, le pétrole, par exemple?
Non, le pétrole,
la
c'est chez nous, justement.
Oui, c'est
plutôt.
Chez vous, mais à Reichstätt, on le raffine.
C'est vrai.
Mais c'est celui-là.
Non, là, c'est dans... Alors, malheureusement, je n'ai pas encore eu l'occasion de le visiter, alors qu'il y a quand même la maison où est née ma grand-mère qui y est.
Ah.
Mais l'idée, c'est un peu comme en plus petit, le principe d'un écomusée. C'est plusieurs maisons qui se visitent pour voir le quotidien des familles alsaciennes.
Alors ça, c'est absolument formidable, ce que vous venez de dire, parce que j'ai rencontré une historienne qui est traitée de parisienne par les historiens locaux, dont Jean-Laurent Vonneau, dont je dis son nom, Frédéric Naudufour. Et elle m'a dit un truc qui est absolument formidable. Chaque fois qu'elle interroge, elle travaille sur l'épuration et sur De Gaulle en Alsace, chaque fois qu'elle interroge quelqu'un en Alsace, hein, en tant que doctorante et historienne, on lui répond et on lui dit « Oui, mais moi, dans ma famille, je vais vous raconter ce qui s'est passé. » C'est-à-dire que les Alsaciens ont quand même une spécificité par rapport à toutes les autres régions de France, c'est qu'ils sont impliqués familialement. Hein. Il y a cette maison qui a été démontée, et vous me dites « Oui, c'est la maison de naissance de ma grand-mère. » Voilà, c'est formidable. Moi, je pourrais vous raconter pareil, plein de choses par rapport à mes grands-parents à Wissembourg et tout. Donc ça, c'est quand même quelque chose... C'est pour ça que peut-être qu'il y a une telle attache des gens pour ces vieilles choses dont on cherche toujours la définition, faire du neuf avec du vieux.
C'est pas encore la définition.
Est-ce que vous avez... Non, vous n'avez pas...
pas trouvé.
Non, vous n'avez pas trouvé. Non, mais ce que je voulais vous demander, c'était est-ce que c'est spécifique à l'Alsace de cet attachement aux vieilles choses, au passé? Quand je pense à ma grand-mère qui a changé 4 fois de nationalité, vous voyez ce que ça veut dire, penser au passé.
Mais finalement, le passé, c'est rassurant. Normalement, le passé, ça ne bougera plus. On sait ce qu'il en est, on sait à quoi s'attendre. Et rester dans le passé, c'est rester dans quelque chose qui ne change pas, mais parfois pour le mieux. Alors que le futur peut être parfois un peu anxiogène.
Ce qui ne change pas aussi, c'est l'architecture. Hein, parce que la maison rurale, vous insistez beaucoup sur ce point-là.
Et puis l'architecture, bien sûr, il y a le côté patrimoine. Et puis bon, je vais être honnête, il y a le côté joli. C'est beau, une maison à colombage aussi.
Oui, c'est vrai. Sauf si, par honte ou simplement pour pouvoir la revendre parce que ça faisait plouc, il y a une période...
Les façades sont refaites.
Voilà, on met du crépi sur les colombages. Bon, maintenant, c'est l'inverse.
Dans les maisons à l'intérieur, on cachait les poutres parce que ça faisait paysan. Enfin, ça, c'est encore une fois, c'est dans ma famille. Dans ma maison, on a enlevé les coffrages qu'il y avait sur les poutres qui passaient au milieu du salon parce que les arrière-grands-parents, ça ne leur plaisait plus. Mais nous, dès qu'on est arrivé dans la maison, on a enlevé ces coffrages justement parce qu'on aimait se cacher de l'ancien. On y revient tous finalement.
Alors Eva Roy, j'aurais dû répéter votre nom plusieurs fois au cours de l'émission. Donc Eva Roy, vous avez 17 ans et demi, peu près.
Un peu plus.
Un peu plus. Non, mais dites-moi, parce qu'il n'y a pas de tard. Enfin,
c'est idiot. Je vais avoir 25 ans.
Vous allez avoir 25 ans. Non, mais donc vous êtes doctorante, on avait deviné, comme vous êtes étudiante, c'est l'âge d'être étudiante. C'est quand même assez formidable d'avoir autant de responsabilités. Bon, je passe le violon, mais comment est-ce que vous imaginez dans 50 ans? Vous serez toujours les pieds dans les poteries de Betjorf?
Je ne sais pas. C'est vrai que quand je pense un petit peu à l'avenir, je me dis toujours « je laisse venir ». Actuellement, mon poste à la maison rurale, j'y suis très bien, il me plaît au quotidien. Mes recherches, elles me plaisent également. Ce qui se passera dans 10, 20, 30, 40 ou même 50 ans, c'est très loin. Et puis, je profite du moment.
Mais vous dites c'est très loin. Pourtant, vous avez des objets qui ont 50 ans et qui sont tout neufs.
C'est vrai.
Qui sont tout frais. Donc, il y a un peu de contradiction là-dessus. Ou alors, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2024, on n'arrive pas à imaginer comment sera notre patrimoine et notre futur dans 50 ans? Et donc, question, on arrive à la fin de l'émission, est-ce que vous pensez qu'il y a 50 ans, donc en 2024, on pensait... En 1974, puisque nous sommes en 2024, on s'imaginait qu'il y aurait un jour cette maison rurale qui respecterait tout cela?
Non, ça je ne pense pas, effectivement, puisque justement, parfois, c'est surprenant pour... Pour les grands-parents, les arrière-grands-parents, de voir ce qui était des objets du quotidien pour eux deviennent des objets d'histoire exposés dans des musées.
Alors, Eva Roy, je vous donne rendez-vous dans 50 ans. On refera l'interview. Voilà, c'était l'épisode numéro 78 de « Vous l'avez bien connu ». Alors, faire du neuf avec du vieux, le pari d'Eva Roy. Alors, faire du neuf avec du vieux en 11 lettres, c'est nonagénaire. C'est génial, hein, c'est pas mal. Non, alors le chiffre 9 pour faire du vieux, 90 ans, c'est pas mal, c'est presque l'âge pour entrer au musée. Vous l'avez bien connu sur Radio Judaïka Strasbourg tous les mardis à 11h30 et rediffusion le dimanche à midi. Et bien entendu, en podcast sur le site de la radio, à la technique. Thomas Marinelli et mon nom, vieux de vieux, nom de Dieu, pas près d'avoir 90 ans, bon pied et toutes mes dents, Ambroise Perrin.